l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Présence Midi. Nous sommes en direct et nous sommes très heureux de vous accompagner à la mi-journée avec Anne-Rose Jankovic, que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Anne-Rose.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Très heureux de vous retrouver pour cette émission, ce Présence Midi, avec dans un instant l'agenda du diocèse de Tarbes-Lourdes.
Un agenda qui va vous parler évidemment de Sainte Bernadette, puisque aujourd'hui dans le diocèse de Tarbes-Lourdes, nous fêtons notre petite bigourdane, notre Sainte Bernadette. Et puis nous parlerons aussi carême, c'est l'entrée en carême demain, mercredi décembre.
Et dans ce magazine, nous reviendrons sur la tempête Nils qui a touché des sinistrés dans le département des Hautes-Pyrénées. Vous êtes allé à leur rencontre.
Oui, effectivement, puisque jusqu'à encore hier, plusieurs foyers étaient privés d'électricité dans le nord du diocèse de Tarbes-Lourdes, dans le nord des Hautes-Pyrénées. Et nous aurons en ligne Michel, notamment du village de Laït-Toupière, qui nous expliquera comment il a passé ses 5 jours sans électricité. Vous verrez qu'il a été coupé d'électricité, mais pas coupé du monde.
À écouter donc dans ce Présence Midi, et puis nous partirons visiter le petit village de Bartrès. Ça se trouve juste au-dessus de Lourdes, évidemment Bartrès, qui est en lien fort avec Sainte Bernadette. Vous en parliez il y a un instant. Voilà pour les grandes lignes de cette émission, mais cette émission démarre avec...
Je ne sais pas, les titres.
Voilà, bon, c'est la première émission que vous faites.
J'avais la tête ailleurs. Ouais.
C'est Lou Deneville qui nous rejoint, elle est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac.
Dans les Hautes-Pyrénées, un couple de parents a lancé une plateforme en ligne dédiée aux familles d'enfants porteurs de troubles de la sphère autistique. Le lien bleu, lancé il y a 3 semaines, se veut à la fois une passerelle de rencontre pour les enfants et un espace d'entraide pratique pour les parents. Initialement pensé pour les départements du 65, 32, 31 et 64, le site a reçu des demandes de toute la France et même de Belgique. Sophia Deneau, deuxième astronaute française à partir dans l'espace, a rejoint l'ISS après le décollage réussi de sa fusée vendredi dernier. Au programme, une mission de 9 mois durant laquelle de multiples expériences vont être réalisées. L'exposition Epsilon à la Cité de l'Espace présentera des reconstitutions de ces expériences orchestrées par le CNES de Toulouse. Apprendre le français au cœur du Lot, c'est possible grâce à Noélie Caillard et son atelier My French Flow. Impliquée dans la direction de la ferme du Tessou, Noélie allie tourisme et apprentissage en utilisant des visites de lieux lotois comme support pédagogique. En présentiel ou en visio, ce dispositif est destiné aux personnes d'origine étrangère, enfants ou adultes, souhaitant parfaire leur maîtrise du français. Enfin, l'ancien édifice baptisé La Providence à Pamiers sera réhabilité d'ici mars 2027. Porté par la municipalité, le projet vise à redonner une vocation active à ce bâtiment du XVIe siècle en le transformant en un espace dédié au dynamisme économique, culturel et social du centre-ville.
Merci Lou Deneville. Voilà pour les titres à la une de l'actualité régionale. Et ces titres seront développés dans moins d'une demi-heure à 12h30. Voilà Lou Deneville qui est avec nous et qui est étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. La suite de Présence Midi dans un instant, c'est avec l'agenda des diocèses. Et aujourd'hui, on prendra la direction du diocèse de Tarbes-Lourdes avec Anne-Rose Jankovic.
J'ai le vertige, de nous. Cette vie de fou, et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai, je préfère ton trop au pas assez. la photo fige.
La chanteuse Santa avec sa chanson La Différence à l'instant.
Présence à Pamiers 100.2.
On sillonne maintenant les diocèses et on s'arrête à Tarbes, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Bonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous.
Je dis à Tarbes, mais vous êtes à Lourdes, bien en face de moi, pour évoquer l'agenda du diocèse. Et on parle, pour débuter bien évidemment, de Sainte Bernadette aujourd'hui.
Et oui, puisque vous savez qu'habituellement, Sainte Bernadette se fête le 18 février, mais demain, mercredi 18 février, c'est le mercredi des cendres, c'est le temps du carême qui commence. Alors, dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, eh bien nous fêtons, célébrons notre Sainte Bigourdane, Sainte Bernadette, aujourd'hui, mardi 17 février, avec plusieurs rendez-vous qui ont déjà démarré tôt ce matin à Lourdes, notamment avec d'abord une messe en l'église du Sacré-Cœur, c'est l'église paroissiale de Lourdes. Et puis depuis 9h ce matin jusqu'à 17h30, eh bien, il est possible de vénérer les reliques de Sainte Bernadette en l'église paroissiale de Lourdes. À 15h30, bien sûr, nous pourrons prier le chapelet à la grotte des Apparitions, à la grotte à Sabielle, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, comme chaque jour, mais c'est aujourd'hui avec bien sûr une communion tout à fait particulière avec Sainte Bernadette. Et puis à 18h, messe en l'église du Sacré-Cœur, donc l'église paroissiale de Lourdes, présidée par Mgr Jean-Marc Mica, l'évêque du diocèse de Tarbes et Lourdes, avant la procession qui démarrera à 20h30 depuis la porte Saint-Michel du sanctuaire de Lourdes. À noter aussi, toujours pour fêter, célébrer Sainte Bernadette, qu'une exposition Sainte Bernadette, Bernadette Soubirous, objet d'une vie, archive d'une sainte, une exposition est visible, visitable depuis le 9 février jusqu'à demain, jusqu'au 18 février, de 14h à 17h dans la salle d'exposition du Centre de ressources historiques au Sanctuaire de Lourdes. Voilà, donc ne manquez pas ces occasions de mieux connaître Sainte Bernadette.
On poursuit cet agenda avec l'entrée en carême et cette journée de jeûne et de prière ce vendredi, c'est à la demande des évêques de France.
Oui, effectivement, c'est une journée de jeûne et de prière qui s'inscrit alors à la fois dans ce début du temps de carême, mais c'est aussi et surtout une journée de prière et de jeûne pour le respect de la vie jusqu'au bout. Vous savez que la proposition de loi sur l'aide active à mourir, la proposition de loi dite de la fin de vie, a été rejetée par le Sénat et elle est de retour à l'Assemblée nationale depuis hier, le lundi 16 février. Le vote solennel aura lieu mardi 24 février. Ce texte qui va être soumis au débat entraîne clairement le pays sur la voie de l'euthanasie et du suicide assisté, nous disent nos évêques de France, avec des mesures graves comme l'absence de clause d'établissement ou le délit d'entrave. Et c'est dans ce contexte donc que les évêques de France nous invitent à une journée de jeûne et de prière vendredi 20 février, premier vendredi du temps de carême. Une journée donc de prière et de jeûne pour le respect de la vie, pour le respect de la vie jusqu'au bout.
On poursuit avec l'appel décisif des catéchumènes, c'est ce dimanche.
Oui, comme vous le savez, le premier dimanche de carême dans chaque diocèse, l'évêque appelle publiquement par leur nom les catéchumènes et il les invite à répondre personnellement à cet appel, l'appel de Dieu manifesté donc solennellement. C'est la célébration que l'on appelle de l'appel décisif des catéchumènes qui marque donc la fin du temps du catéchuménat et qui se veut vraiment l'écho d'un dialogue où Dieu ne cesse d'appeler tout homme et attend sa réponse libre, pleine et entière. Les catéchumènes rentrent alors dans le temps de carême, soutenus par la communauté chrétienne, et ils sont désormais admis à recevoir les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, l'Eucharistie, puis la confirmation aux prochaines fêtes de Pâques. Dans le diocèse de Tarbes et Lourdes, 34 adultes vont répondre à l'appel décisif ce dimanche 22 février, lors de la messe célébrée par Monseigneur Mika à la cathédrale Notre-Dame de la Cède à Tarbes. Ces catéchumènes, ils arrivent de différents coins du diocèse: Bagnères de Bigorre, Lannemezan, Lourdes, Lourbarousse, Pouillastruc, Tarbes, Try, Magnoac, Vic en Bigorre. Voilà, ils viennent d'un petit peu partout. Ils sont 34 cette année et chaque année, eh bien, le nombre augmente et on est vraiment heureux et on se réjouit bien sûr de l'arrivée de ces catéchumènes qui nous font beaucoup de bien.
Voilà, on aura, j'imagine, l'occasion de les écouter, de les entendre sur Radio Présence prochainement.
Bien sûr, nous entendrons leurs témoignages et puis voilà, nous les accueillons avec énormément de joie.
Voilà, le chiffre, c'est 34 adultes donc dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. On reste dans le diocèse de Tarbes et Lourdes avec plusieurs initiatives de carême qui sont prises dans les paroisses. Un exemple dans la vallée de la Barousse.
Oui, dans la vallée de la Barousse, une proposition qui sera mise en place à partir de cette semaine et tous les vendredis de carême, eh bien, des rencontres auront lieu à 15h au presbytère de Lourbarousse, dans la paroisse du Pays de Lannemezan. Il s'agira d'un partage d'évangile, donc rendez-vous chaque vendredi de carême au presbytère de Lourbarousse à 15h pour vivre ce partage d'évangile.
Autre exemple du côté de Bagnères de Bigorre.
Oui, alors vous savez que dans la paroisse du Pays de Bagnères de Bigorre, chaque année nous propose quelque chose d'un peu original pour vivre le temps de carême, c'est du ciné. Alors on va au cinéma pendant le carême dans le Haut-Adour et cette année, eh bien, rebelote si je puis dire. L'objectif, eh bien, c'est de visionner ensemble des films chrétiens qui nous encouragent, qui nous aident à réfléchir sur notre propre foi. Donc ça recommence cette année avec un rendez-vous donc chaque mercredi de carême. Alors ça commence pas demain, ça commencera le mercredi 25 février. Les rendez-vous sont toujours donnés à 20h au 13 rue Pasteur à Bagnères de Bigorre. C'est au secrétariat paroissial, dans les salles paroissiales à côté du secrétariat. Une libre participation est proposée et la recette permettra alors d'une part de payer les droits de distribution des films et puis d'autre part d'aider l'association SOS Calvaire. Chaque année, c'est une nouvelle association qui est aidée et cette année, c'est l'association SOS Calvaire qui sera soutenue donc par cette démarche, cette proposition de carême dans le Haut-Adour. Du ciné pour le carême.
Voilà, du ciné pour le carême. Pendant le temps de carême, chaque année, le CCFD Terre Solidaire se mobilise.
Oui, et là encore, on pourrait dire rebelote pour cette année. Et cette année, pour mieux comprendre ce qu'est la souveraineté alimentaire, eh bien, des rendez-vous dans les paroisses sont organisés pendant tout le temps du carême. Toutes les rencontres auront lieu en soirée à 19h. Alors, ça commencera dans la paroisse du Pays d'Argelès très bientôt, le 25 février. Ce sera à Pierrefitte, voilà. Et puis, des rendez-vous s'échelonneront comme ça, à Tarbes le 5 mars, à Bagnères de Bigorre le 12 mars. Et avant cela, il y aura Campan le 5 mars. Et puis, Cotteret le 12 mars, vous voyez, février, mars, tout le temps du carême, eh bien, nous aurons des rendez-vous dans toutes les paroisses, ou presque toutes les paroisses, avec le CCFD Terre Solidaire, pour être sensibilisé à ces grands défis, dont celui-ci, la souveraineté alimentaire. Et ce sera toujours, comme d'habitude, avec des partenaires du CCFD Terre Solidaire. Par exemple, cette année, il y aura des partenaires du Paraguay et du Maroc, mais pas seulement. Et je vous rappelle que vous pouvez vous renseigner sur toutes les toutes les œuvres du CCFD Terre Solidaire et les partenaires et les défis qu'ils relèvent dans différents pays en vous rendant sur leur site ccfd-terresolidaire.org.
Avec vous, on reparle de la fin de vie avec le débat qui continue et une date est à noter, une date dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes à retenir. Hein.
Oui, effectivement, oui, c'est vraiment un sujet important et c'est maintenant que ça se joue, hein, puisque je vous rappelle que la proposition de loi sur la fin de vie a été rejetée par le Sénat. Elle est depuis hier de retour à l'Assemblée nationale et le vote solennel aura lieu le mardi 24 février. Il est grand temps de s'intéresser à ce que dit ce projet de loi. C'est maintenant que ça se joue. Et pour nous encourager à nous informer, à bien savoir ce qui se cache derrière tous les termes qui sont employés et qui sont compris dans ce projet de loi, et bien dans le diocèse de Tarbes-et-Lourdes, nous avons la chance d'avoir un service de pastoral de santé qui nous sensibilise, qui nous alerte sur différents points. Et à la demande de notre évêque, Mgr Jean-Marc Mika, une matinée d'information aura lieu le samedi 28 mars de 9h à midi en la maison diocésaine, la maison Saint-Paul à Tarbes. Une matinée d'information au cours de laquelle des soignants en unité de soins palliatifs, un théologien, un juriste se rencontreront, échangeront et pourront répondre à nos questions. Vraiment, c'est un sujet sur lequel il faut absolument s'informer parce que c'est important. Il faut prier comme nous y invitent nos évêques, mais il faut savoir aussi de quoi on parle.
Voilà, la date, on la redonne, ce sera le samedi 28 mars, hein,
oui,
la matinée.
Et nous en parlerons évidemment dans cette chronique, c'est un rendez-vous très important.
Bien sûr, on termine l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes avec la lettre pastorale de Mgr Jean-Marc Mika.
Vous l'avez entre les mains,
Gilles. Je l'ai sous les yeux. Voilà.
Bravo, la lettre pastorale de Mgr Jean-Marc Mika, évêque du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Cette lettre pastorale, elle est à lire, à déguster, j'allais dire. Elle donne les orientations pour le diocèse de Tarbes-et-Lourdes pour les années à venir. C'est une lettre qui est faite pour tout le monde, les paroissiens habitués, ceux qui le sont peut-être moins, pour les habitants de la Bigorre et des Quatre Vallées, toutes les personnes qui s'intéressent à la vie de l'Église et toutes les personnes qui s'intéressent à ce que nous pouvons faire aussi, nous chrétiens, sur ce territoire des Hautes-Pyrénées. Voilà, c'est un texte qui est facile à lire, qui nous donne des objectifs et des défis missionnaires concret, avec l'objectif toujours de la mission, l'annonce de la bonne nouvelle, l'annonce de l'évangile. Ce livret, lettre pastorale de Mgr Mika, est disponible dans toutes les paroisses du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Renseignez-vous auprès de vos secrétariats paroissiaux, ils en ont à portée de main.
Voilà, c'est effectivement un petit livret hein, qui est très réussi avec une cinquantaine de pages.
Exactement, et alors il y a deux parties. Il y a d'abord vraiment la lettre de notre évêque, de Mgr Mika, qui nous parle comme un père parle à ses enfants. Et puis ensuite, il y a une deuxième partie, c'est vraiment le projet pastoral pour les années 2026-2029. Un projet qui se décline et qui balaye tous les points de notre vie diocésaine dans nos territoires des Hautes-Pyrénées avec des points très concrets. Hein, ça va de l'organisation des paroisses aux finances. Enfin voilà, c'est très concret et ça répond à toutes les questions que nous pouvons nous poser dans le cadre de la réorganisation. Vous savez, puisque nous sommes passés désormais à un diocèse découpé en 10 grandes paroisses, il y a plein de questions qui vont derrière. Eh bien, les questions n'empêchent pas les projets. Et tout ce petit livret nous dit tout ça.
Ce livret, je l'ai entre les mains, mais si on souhaite le consulter sur Internet, c'est possible ?
C'est désormais possible. Voilà. Vous pouvez le trouver en format papier dans vos paroisses et au format numérique sur le site du diocèse catholique65.fr.
Voilà, ça nous permet de rappeler l'adresse du site Internet et rappeler aussi que l'application au clocher vous permet d'annoncer vos manifestations dans les paroisses.
Évidemment, et n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives de carême, tiens, par exemple, et puis de plein d'autres choses. Alors, certaines personnes envoient des photos, c'est très joli d'ailleurs, des Montjoie ou des calvaires qui sont recouverts de neige, parce qu'on a beaucoup de chance dans les Hautes-Pyrénées cette année, on a beaucoup de neige. Et voilà, alors n'hésitez pas, vous pouvez envoyer une simple photo avec une petite légende. Voilà, le village ou la route sur laquelle vous avez pris la photo, et bien déjà, ça c'est un petit partage sympa.
Voilà.
Et tous les petits partages sympas, finalement, ils construisent un peu la communion.
Merci Androse Jankovic, voilà pour l'agenda du diocèse de Tarbes-et-Lourdes. Androse, bien vous restez avec nous, puisque dans un instant on va parler d'un tout autre sujet, un sujet d'actualité, on va revenir sur la tempête Nils hein, qui a touché nos départements. Vous êtes allé à la rencontre, vous avez été rencontrer des personnes qui ont été frappées par cette tempête.
Exactement, et qui vont nous raconter dans quelques instants comment elles ont vécu les choses. Je vous rappelle quand même que jusqu'à hier, plusieurs foyers au nord des Hautes-Pyrénées étaient privés d'électricité. Hein, ça a duré 5 jours. Comment ils ont vécu ça là-haut, dans le nord? Eh bien, ils nous racontent tout ça dans quelques secondes.
Voilà, dans quelques secondes, nous irons donc du côté notamment de Light to Pierre. Ça sera juste après cette pause musicale avec N'être qu'un homme.
J'ai ton regard au fond du mien et de l'amour qui me revient. Des souvenirs qui pleurent en moi, mais on n'a plus le temps pour ça. Bien sûr que je n'étais pas tendre, je ne savais pas comment m'y prendre. Avec l'amour, avec l'enfance, je ne parlais que par silence. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père d'être un homme? Un homme qui te dira ma fille je t'aime, qui t'apprendra à faire de même, qui te tiendra encore la main quand tu voudras pleurer pour rien. Pour toutes les fois où j'étais là, quand tu avais besoin de moi, en te donnant ce que j'ai pu, ce que j'avais, en quoi j'ai cru. Est-ce qu'on a le père qu'on mérite? Est-ce qu'on mérite le père qu'on a? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à son père d'être un homme? Les prières que l'on bâillonne, les promesses qu'il abandonne. Dis-moi, est-ce que l'on pardonne à un père d'être un homme? Sans un père, on n'est personne. On se perd, on abandonne. Dis-moi, est-ce que tu pardonnes à ton père de n'être qu'un homme? Un homme de n'être qu'un homme.
Bon appétit à l'écoute de Radio Présence. Avec un peu d'avance, on retrouve Lou de Neuville pour le journal de la mi-journée, le journal régional.
Dans les Hautes-Pyrénées, un couple de parents lance une plateforme en ligne dédiée aux familles d'enfants porteurs de troubles de la sphère autistique. En 2025, lorsque leur enfant est diagnostiqué TSA, Eric et son épouse imaginent le lien bleu. Lancé il y a 3 semaines, le site se veut à la fois une passerelle de rencontre pour les enfants et un espace d'entraide pour les parents. Concrètement, la plateforme leur est réservée, ce sont eux qui s'inscrivent, créent le profil de leur enfant et décrivent ses caractéristiques, ses passions et ses modes de communication. L'idée est simple, permettre à un parent de repérer un enfant du même âge avec des centres d'intérêt similaires, parfois à quelques kilomètres seulement. À ce jour, environ 150 familles sont inscrites et une 50aine de profils enfants sont actifs. Initialement pensé pour les départements du 65, 32, 31 et 64, le lien bleu a reçu des demandes de toute la France et même de Belgique. Un forum réservé aux membres permet également d'échanger des conseils pratiques, des informations sur les aides financières ou des solutions aux problèmes du quotidien. Sophie Adnaud, deuxième astronaute française à partir dans l'espace, a rejoint l'ISS après le décollage réussi de sa fusée vendredi dernier. Au programme, une mission de 9 mois durant laquelle de multiples expériences vont être réalisées. Sébastien Rouquette, responsable développement d'expérience du CNES Toulouse, nous donne des précisions.
Pour nous, le travail quotidien, c'est de préparer des expériences essentiellement scientifiques qui sont destinées à l'ISS et pas seulement dans le cadre de la mission d'une astronaute française. C'est notre travail quotidien, sans attendre qu'il y ait des astronautes français qui arrivent dans l'ISS. Et donc elle sera une opératrice et un sujet d'expérience au même titre que d'autres astronautes avant elle.
C'était Sébastien Rouquette, responsable développement d'expérience du CNES de Toulouse, qui nous présentait la mission de Sophie Adnaud dans l'ISS. Apprendre le français au cœur du Lot, c'est possible grâce à Noélie Caillard et son atelier My French Flow. Professeure indépendante en français et langue étrangère, elle a créé des ateliers d'immersion en langue française mêlant langue, culture et découverte du territoire. En présentiel ou en visio, ce dispositif est destiné aux personnes d'origine étrangère, enfants ou adultes, souhaitant parfaire leur maîtrise du français. Impliquée dans la direction de la ferme du Tessou, Noélie allie tourisme et apprentissage en utilisant des visites de trois de lieux lotois comme support pédagogique. Les visios se déroulent en groupe à travers une vidéo qui présente les caractéristiques du lieu avec des sous-titrages en français. Enfin, l'ancien édifice baptisé La Providence à Pamiers sera réhabilité d'ici mars 2027. À l'origine hôtel particulier puis couvent, l'édifice baptisé La Providence, situé au 25 de la rue Gabriel Péri, va être réhabilité. Le coût global de l'opération s'élève à 2,6 millions d'euros, financé par des subventions publiques associant l'État via le fonds Friche, la région Occitanie et la ville de Pamiers. Porté par la municipalité, le projet vise à redonner une vocation active à ce bâtiment du XVIe siècle en le transformant en un espace dédié au dynamisme économique, culturel et social du centre-ville. Outre la création d'un hôtel d'entreprise, le projet prévoit aussi un espace dédié à l'art et au patrimoine apaméen, exposition permanente et animation. L'aménagement d'un espace de restauration est également prévu. Un appel à candidature sera lancé en ce sens au second semestre 2026.
Merci, Denville. Voilà, je rappelle que vous êtes étudiante au sein de l'école de journalisme et de communication de Blagnac. Retour de l'info dans une demi-heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican pour l'actualité nationale et internationale. Dans une vingtaine de minutes, nous irons dans le petit village de Bartrès, un village que Bernadette a souvent fréquenté. On en parlera dans quelques minutes. Et puis, dans un instant, on reste dans l'actualité avec la tempête Nils et Andros Jankovic qui a rencontré plusieurs sinistrés dans le département des Hautes-Pyrénées.
J'aime tes vins de Bourgogne qui me racontent des histoires. Tes petites piquettes qui collent et sentent bon le terroir. Je m'enroule dans ta manche, je rêve de tes tropiques. J'aime tellement tes dimanches, ta campagne et tes criques. Chez toi on se sent libre, égal et fraternel. Et même quand tu m'enivres, tu m'accroches à tes prunelles. Tous les 14 juillet, tu brilles des mille feux. On est tous aux aguets, les petits, les grands, les vieux. Chaque fois je veux partir, voyager, voir du pays. Je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence, aimer les brunes ou les blondes. On ne fait jamais le tour de France. Oh, oh, là, oh, oh, là, oh. On ne fait jamais le tour de France. Oh, oh, là, oh, oh, là, oh. J'aime tes petites places, ricard et puis pétanque. À tes terrasses ou sirop à la menthe. T'as le goût de la fête, tes rêves parlent fort. T'as tellement de facettes et tellement de décors. Chez toi on ne s'ennuie jamais, t'as ton petit caractère. Quand on te marche sur les pieds, tu lèves le poing en l'air. Unis on est plus fort, même quand on se fait la guerre. On s'engage et alors on reste solidaire. Chaque fois je veux partir, voyager fort du pays. Je reviens pour ton sourire, ma France, tu m'as tout appris. On peut faire le tour du monde, visiter Vienne ou Florence,
petit bout de terre. C'est bien joli la Bretagne, et c'est bien bon le Finistère. Et quand l'Alsace te gagne, tu reviens pas en arrière. Chaque fois je veux partir, voyager fort du pays.
Le Tour de France à l'instant de Claudio Capéo.
Présence, place du Capitole, 97.9.
On revient maintenant sur les intempéries qui ont frappé notre région. Zoom sur le département des Hautes-Pyrénées avec vous, Anne-Rose.
Oui, coupure d'électricité, route impraticable, crue, dégâts sur les habitations, perturbation des trains et transports en commun. La tempête Niels a traversé et frappé notre région avec des vents violents dans la nuit du 11 au 12 février dernier. Dans les Hautes-Pyrénées, le vent a soufflé jusqu'à 134 km/h à Tarbes, du jamais vu pour un mois de février. Alors, pour vous faire une idée, le vent avait soufflé à 137 km/h lors de la grande tempête de décembre 99. Vous voyez que nous étions un peu dans le même phénomène. Cette fois-ci, quand même, des rafales à 170 km/h enregistrées au sommet du pic du Midi. Jeudi 12 février au matin, 15 500 foyers étaient privés d'électricité, une situation qui a duré jusqu'à hier pour certains d'entre eux dans le nord du département, notamment à Laït-Toupière où jusqu'à hier, eh bien encore 28 maisons étaient coupées d'électricité, mais pas coupées du monde. C'est en tout cas le témoignage que nous donne Michel Védis, habitant du village. Michel Védis, vous habitez à Laït-Toupière et jeudi 12 février, eh bien, on peut dire que vous avez subi la tempête Niels de plein fouet, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé chez vous pendant cette tempête ?
Eh bien, on a eu pendant la nuit de mercredi à jeudi la grande tempête avec du vent assez fort. Bon, pas d'arbres tombés chez moi. Par contre, on a eu des arbres sur la route qui va à Montbourguet à Laït. Et puis, quelques poteaux qui sont tombés. On a eu quand même du courant toute la nuit. Et le matin, à partir de 6 heures, coupure de courant. Donc, mais tout le village n'a pas été touché. Il n'y a qu'un petit côté du village, du côté enfin, on est un petit groupe de maisons, mais nous, par contre, on a été remis en électricité que hier soir.
Ah oui, donc vous avez passé tous ces jours-là sans électricité.
Ah oui.
Alors concrètement, comment ça se passe quand on n'a pas d'électricité pendant 5 jours ?
Alors je vais vous dire, quand vous avez le portail électrique, le garage électrique,
ah oui.
Tout électrique, on a de la chance, heureusement, que dans la paroisse, on a une bonne équipe qui vient vous chercher et qui vous dit « bon, tu vas rester à la maison ». Voilà, donc on a pu s'en sortir. Nous, on a pu s'en sortir. Et heureusement, parce que comme je suis malade et sous oxygène, c'était pas pratique pour moi.
Ah oui, on imagine.
Donc, voilà,
oui.
Ouais.
Donc vous avez...
Mais donc ça s'est bien passé, oui, heureusement.
Donc si je vous suis bien, vous avez été hébergé chez des amis.
Voilà, des amis qui passaient nous prendre le matin et qui nous ramenaient le soir. Parce que moi, je devais recharger mon appareil oxygène, j'ai des grosses cuves à la maison, et ça, on pouvait pas le mettre dans la voiture. Donc on passait la nuit quand même ici. Alors, on était chauffé puisque on avait la cheminée et du bois, donc déjà, c'est bien, et on avait quand même le gaz qui nous permettait de chauffer à manger le soir. Donc, ça s'est bien passé. Mes voisins tout autour, on avait communiqué, eux-mêmes s'étaient débrouillés comme nous, et puis il y a eu un petit groupe électrogène qui a circulé dans les 4-5 maisons autour, puis ça voilà, tout le monde s'en est sorti, tant mieux.
Alors, tant mieux. Une galère quand même, mais vous avez l'air de prendre ça avec beaucoup de philosophie et même un peu d'humour. Est-ce que c'est le cas autour de vous, ou est-ce que vous avez senti dans le village et alentour de la tension, de la peur, de la fatigue probablement ?
Non, je crois pas parce que en ville, on a peut-être plus peur. Mais à la campagne, on a l'habitude, enfin je pense qu'ils ont l'habitude, il y a un problème, on s'entraide, il y a de la solidarité qui existe encore. Moi, je le vois bien. Je suis même surpris parce que je m'occupe de l'église de Laït. Et en fait, lorsqu'on fait la messe, il y en a deux qui viennent. Alors que dans le village, non. Mais là, par contre, il y a un coup dur. Il y a quand même un mouvement solidaire. Voilà, c'est une grande famille quand même.
Donc les personnes qui n'ont pas été sinistrées, elles se sont senties concernées, elles vous ont aidé.
Ah ouais, coup de téléphone, ouais. Ça va, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on doit aller faire des courses ? Voilà, oui, il y a quand même un élan. Et puis tout le maximum du village n'était pas coupé au niveau électrique. Par exemple, hier, oui, c'était lundi, hier, oui, il y avait un enterrement chez nous à Laït. Bon, j'ai pas pu y aller, mais bon, l'équipe qui s'occupe de nos obsèques y a été. Il y avait l'électricité dans l'église. Et on avait du monde.
Vous nous parlez d'un groupe électrogène mobile qui a circulé. Il sortait d'où, ce groupe électrogène mobile?
Ah non, c'est un voisin qu'on a, hein, qu'on avait un en rave, et qu'il a circulé un petit peu dans les 3-4 maisons autour de chez nous. Bon, parce qu'il y a une personne âgée à côté de chez moi, toute seule. Bon, ben, là, ils ont été la réchauffer son téléphone, qu'elle puisse réchauffer un peu, qu'elle puisse remettre surtout le congélateur. Le problème, c'est le congélateur.
Eh oui.
Alors ça va, ben, mon voisin, il est venu, il m'a tout pris, il l'a mis dans le sien. Donc ça va, on est sauvés. Voilà, c'est ça la solidarité ici.
Ben, merci beaucoup.
Voilà.
Vous avez le sourire dans la voix?
Oui, non. Ben, il faut garder ça. Philosophie, il n'y a pas mort d'homme.
Non, mais enfin, cela dit, vous, avec vos bouteilles d'oxygène, ça a quand même dû être un
oui.
peu compliqué.
Non,
quoi.
J'avoue, j'étais hyper stressé et que la première nuit, j'ai pas dormi.
Ah, oui.
Parce que je me dis, si je dois appeler les urgences, ils font comment, quoi?
Oui.
Pas pouvoir ouvrir le portail. Bon, ça fait peur, mais bon, voilà, bon.
Merci,
voilà.
Merci Michel Védis de votre témoignage et de nous avoir raconté un petit peu comment s'est passé, s'est vécu cette tempête et puis les jours qui ont suivi cette tempête Nils, donc qui a soufflé surtout l'ouest de la France et puis pas mal dans le nord des Hautes-Pyrénées.
Et dites-vous bien une chose, c'est que par rapport à ceux qui sont du côté de Bordeaux ou ailleurs, et eux ont les pieds dans l'eau, ça par contre, c'est dur, hein.
Eh bien, vous avez raison. Solidarité encore. Voilà.
Voilà.
Merci beaucoup. Merci.
Bonne journée. Au revoir.
Voilà. C'était le témoignage donc de Michel Védis, qui jusqu'à hier n'avait pas d'électricité. Lui qui habite à Laït-Toupière. Tout est rentré dans l'ordre. Mais à quelques kilomètres de Laït-Toupière, le vent a été un peu plus clément, peut-être. En tous les cas, les coupures d'électricité n'ont pas duré aussi longtemps. Mais tout près de Vic-en-Bigorre, Caroline a eu quelques frayeurs. Elle nous donne son témoignage. Bonjour Caroline.
Bonjour Anne-Rose.
Alors vous habitez dans un petit village à côté de Vic-en-Bigorre, donc c'est toujours dans le nord du département des Hautes-Pyrénées. Et vous aussi, vous avez subi, comme Michel lui-même nous l'a expliqué il y a quelques instants, vous aussi vous avez subi jeudi 12 février la tempête Nils de plein fouet. Comment ça s'est passé du côté de Vic-en-Bigorre et alentour, là où vous vivez?
Alors, ben, ça s'est passé on a un peu anticipé parce qu'on a eu la chance d'être quand même prévenu à l'avance que ça allait souffler très fort. Donc, ben, on s'est préparé, on a quand même un peu rentré tout ce qu'il y avait à rentrer. Après, dans la nuit, quand ça s'est mis à souffler, c'était très, très impressionnant au niveau du bruit, au niveau des rafales. On entendait quand même vraiment beaucoup les rafales de vent, la pluie, enfin c'était vraiment impressionnant. Moi c'était la première fois que j'avais vraiment ce ressenti-là, quoi.
Vous avez eu peur?
Un petit peu, alors peur, un petit peu d'angoisse quand même, parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on va trouver le lendemain au réveil, enfin bon, voilà, ouais, non, j'étais pas tranquille.
Au matin, au réveil, justement, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce qu'il y avait des arbres tombés sur la propriété? Est-ce que votre toiture, par exemple, a été endommagée, comme ça a été le cas sur certaines habitations autour de Vic-en-Bigorre?
La toiture, on a eu de la chance. Non, il y a eu un petit coin qui s'est un peu décollé, qu'on a pu très vite remettre en place. Bon, les poubelles qui se sont éventrées, bon, ça, c'est pas grave. Des arbres chez nous, pas trop, mais dans les petits coins de forêt en face, c'était un carnage. Nous, on a choisi de pas aller travailler jeudi matin, de faire tout en télétravail. Mais bon, on n'avait plus d'électricité non plus, en fait. L'électricité a été coupée de 3h du matin à 15h. Donc ça a été assez
compliqué. Pour le télétravail, pas facile quand même.
Ben, pour le télétravail, une fois que la batterie de l'ordinateur elle est à plat, c'est mort.
Alors
mais bon, on a la chance d'être en campagne et de pouvoir avoir le poêle à bois pour rester un petit peu au chaud, voilà. Mais sinon, oui, c'était assez impressionnant et assez compliqué en fait à gérer.
Vous me disiez en préparant ce petit entretien que vous avez aussi été mobilisé auprès de votre maman. Alors peut-être que pour les personnes plus âgées, c'est plus compliqué aussi à gérer ce genre de situation.
Oui, alors ma maman, effectivement, bon, elle habite dans le 64, au-dessus de Pau. Et ben, en fait, il y a un arbre qui est tombé dans la nuit, un gros mimosa qui est tombé sur la route. Donc, ben, comme effectivement, elle est assez âgée, ben, c'est pas elle qui va aller couper l'arbre. Donc, bon, les personnes proches dans son voisinage s'en sont occupées dès le matin pour dégager la route parce qu'il y avait carrément la petite impasse dans laquelle elle habite, là, de son lotissement qui était... coupée. Enfin, donc voilà, il fallait vraiment faire au plus pressé. Donc elle a des voisins qui sont venus couper ce qui dépassait de manière à dégager une partie de la route, que les gens puissent quand même circuler et sortir du lotissement. Et puis bah nous, du coup, le week-end, on s'est aussi mobilisés et puis on a pris nos petits outils et nous sommes allés aider à dégager l'arbre, couper, voilà.
Voilà, ben Michel nous parlait il y a quelques instants de la solidarité qui avait vraiment été exemplaire pendant cette période et les jours qui ont suivi. Vous confirmez, Caroline ?
Oui, oui, tout à fait. C'est normal de s'entraider. Voilà, pour parler de la solidarité, nous, on a notre voisin d'en face qui a un groupe électrogène et qui nous a aussi proposé que si jamais la coupure d'électricité se perdurait, il nous prêterait un peu, enfin, une rallonge pour qu'on puisse brancher notre congélateur, histoire de ne pas tout perdre. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup de solidarité et beaucoup d'entraide dans nos villages. Et c'est très chouette. Et c'est là qu'on le voit, en fait. C'est dans ces situations-là qu'on voit que c'est vraiment chaleureux et amical et qu'on est soudés et solidaires.
Merci beaucoup, Caroline. Et bon retour à la normale du côté de Vic-en-Bigorre, tout près du village de Sanous, là où vous vous trouvez. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Voilà, et on referme donc ce chapitre intempéries avec des nouvelles, cette fois de la Mongie. Vous savez, Gilles, que la station de ski était inaccessible depuis dimanche soir à cause du risque d'avalanche très marqué. La route avait été condamnée après le village de Campan et l'accès par le col du Tourmalet, évidemment impossible à cette période et avec cette neige. Le directeur de la station, Hervé Pounot, a annoncé à nos confrères d'ici Béarn-Bigorre que la station de la Mongie est à nouveau accessible depuis ce matin, ce mardi matin, 8h. 70% du domaine skiable est ouvert aujourd'hui et ce sera du 100% demain, mercredi, avec, paraît-il, le retour du soleil, il paraît.
Très bien, et puis on a aussi une pensée pour les sinistrés qui ont été touchés dans notre région par cette tempête et par plus largement toutes les intempéries.
Effectivement, il y a encore beaucoup de personnes qui ont beaucoup de choses à réparer, des toitures, etc. Évidemment, on pense à elles et on leur souhaite beaucoup de courage.
Voilà, dans toute notre région Occitanie. Un grand merci, Androis Jankovic.
Merci à vous, Gilles.
Et
à jeudi.
Très vite, à jeudi.
Pour d'autres aventures.
Exactement. Dans un instant, on part du côté de Bartrès, puisque, évidemment, Sainte-Bernadette.
Sainte-Bernadette oblige.
Voilà, fréquenter de nombreuses fois ce petit village pour les auditeurs qui nous écoutent un peu loin. Ce petit village, c'est juste au-dessus de Lourdes. Allez, à 5-6 km sur les hauteurs de Lourdes avec une magnifique vue.
Effectivement. Et on peut même y aller à pied.
Exactement. Mais on fait ça. On y va. Merci, Androis, et bonne journée.
Bonne journée, Gilles.
Présence à Auch. 89.6.
Extraña el amor. mio la dice también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás. Tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado.
Regresa a mí. Solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos.
À Castelsarrasin, 93.3.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
On va prendre maintenant la direction d'un village qui se trouve pas très loin de Lourdes. Ce village s'appelle Bartrès et on y part avec Julie. Bonjour.
Bonjour Gilles.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. On va découvrir ce petit village, un petit village qui est marqué avec évidemment Bernadette Soubirous. On en parlera dans un instant avec vous. Mais ce petit village, eh bien, on peut déjà retrouver des menhirs.
Exactement, voilà. Alors Bartrès, il faut savoir, c'est un tout petit village qui se trouve au nord de Lourdes, à environ 4 km. Ils sont à peu près 560 habitants à Bartrès. Et effectivement, c'est habité, c'est peuplé depuis très très longtemps. On y a retrouvé à Bartrès des mégalithes, des menhirs, des dolmens et aussi un tumulus qu'on ne peut plus voir malheureusement puisqu'il a été détruit avec la mise en culture de la lande de Bartrès. Il y a également aussi une église, l'église Saint-Jean-Baptiste. C'est une ancienne église médiévale fortifiée qui servait autrefois de protection pour les habitants du village. Elle a été restaurée et reconstruite en partie et elle abrite toujours aujourd'hui un magnifique retable qui date du XVIIe siècle, classé au titre des monuments historiques.
Alors évidemment, quand on parle de Bartrès, on pense immédiatement à Bernadette Soubirous, puisqu'elle y a passé deux périodes de sa vie.
Exactement, c'est la personnalité vraiment la plus connue du village de Bartrès. C'est aussi pour ça que de nombreux visiteurs veulent y aller pendant leur pèlerinage à Lourdes. C'est que Bernadette y a séjourné deux fois. Elle y a séjourné d'abord toute petite en nourrice. C'était de 1844 à 1846. Sa mère, suite à un accident, ne pouvait plus vraiment l'allaiter. Et du coup, une dame de ce village de Bartrès, Madame Marie Lagus, a accepté de la prendre en nourrice. Donc autrefois, cette maison Lagus, ou aussi appelée maison de la nourrice, pouvait se visiter. Maintenant, elle est fermée au public, mais on peut toujours y passer devant.
Autre période pendant laquelle Bernadette était à Bartrès, c'est juste avant les apparitions.
Exactement. Là, c'est pour une autre raison. Ça a été à peu près de septembre 1857 à janvier 1858. Donc là, pas de problème, enfin, pas pour une question de nourrice, mais c'était vraiment parce que la famille de Bernadette est tombée un petit peu dans la misère. Suite à un accident du père de Bernadette, ils n'ont pas pu rester au Moulin-Boly. C'est à ce moment-là qu'ils ont déménagé au Cachot. Donc le Cachot, c'était une ancienne prison de la ville, qui ne l'était plus quand Bernadette y a déménagé, mais le nom est resté. Et bon, pour éviter d'avoir à payer et à nourrir pour une bouche de plus, ils ont renvoyé Bernadette, du coup, chez son ancienne nourrice à Bartre. Elle va y travailler à la ferme, elle va garder les enfants de la famille et également les moutons et les brebis au niveau de la bergerie, la petite bergerie qui se trouve sur la route de Bartrès quand on arrive de Lourdes, sur la route de Lourdes. Donc elle va rester là donc jusqu'en janvier 1858 et à partir de là, vu qu'elle n'était pas très instruite, elle n'avait pas fait sa première communion, Bernadette, elle a vraiment ce désir de faire le catéchisme et de pouvoir passer, de faire sa première communion. Donc elle va d'elle-même rentrer à Lourdes et on sait que quelques temps plus tard, en février, elle aura la rencontre qui va changer sa vie et celle de la ville de Lourdes.
Alors ce village de Bartrès, on peut y aller évidemment en voiture, mais il y a aussi un chemin pédestre qu'on peut emprunter depuis le sanctuaire de Lourdes.
Tout à fait, le chemin de Bernadette qui est praticable alors depuis le sanctuaire de Lourdes et qui monte à travers les coteaux au nord de Lourdes pour arriver à Bartrès. C'est un petit chemin facile à suivre, il est balisé en rouge et blanc, c'est un GR, il fait partie d'un GR. Et il y a à peu près 4 km, donc une heure et demie à peu près de randonnée. On peut également arriver jusqu'à la bergerie où elle gardait les moutons. Et là, on peut la visiter, on peut en faire le tour de la bergerie. Et y passer un petit peu de temps.
Au-delà de suivre les traces donc de Bernadette Soubirousse, le village de Bartrès permet d'avoir une jolie vue sur les Pyrénées.
Exactement, oui, voilà. En montant sur ce chemin, ça permet d'avoir des points de vue dégagés sur l'entrée des vallées et sur les Pyrénées autour de Lourdes.
Voilà ce qu'on pouvait dire pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce petit village qui se trouve vraiment à côté de Lourdes, à quelques kilomètres, vous l'avez dit, 4 kilomètres donc de Lourdes. Ce village s'appelle Bartrès et on vous encourage à aller y faire un tour. Et moi, il me reste qu'à vous remercier, Julie. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Pays de Lourdes. Merci.
Merci beaucoup, à bientôt.
Balade en Pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes. Les podcasts de Radio Présence.
Podcasts de Radio Présence.
Toutes les émissions et chroniques de votre radio en réécoute sur le site internet de Présence.
Immersion.
Vivante Église.
De passage à Lourdes.
Église Actualité.
Présence Matin.
Parole d'auteur. Toutes les émissions et chroniques de votre radio. www.radioprésence.com.
Un service de Radio Présence. Présence.
Wonderful life is.
beautiful, how wonderful it is when you're in the world, 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 world. And it bust out up on a rooftop and kicked off my shoes.
À Figeac 97.7
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Reprise des négociations à trois entre la Russie, l'Ukraine et les États-Unis, ce qui n'empêche pas la poursuite des bombes.